Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pensez à covoiturer.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, on est reparti. Deuxième heure de Good Evening Business jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Alors, c'est confirmé, c'est officiel. Cette fois, nos comptes publics ont sérieusement dérapé l'an dernier. On va voir ça avec Thomas Asportas dans un instant. Bruno Le Maire reste en tout cas focalisé sur son objectif de ramener les déficits à 3%. En 2027, on va en parler bien sûr avec nos experts qui reviennent dans un
moment. Et oui, ça sera forcément le gros morceau de la soirée. Et puis on commentera aussi cette petite phrase de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui n'exclut pas de réquisitionner les personnels, les outils de production des industriels français pour augmenter la production de matériel militaire. Et puis on parlera d'Atos, puisque les dirigeants ont enfin pris la parole aujourd'hui, mais ça n'a pas vraiment rassuré le marché.
Alors ça dans un instant, qui seront les débatteurs qui seront avec nous dans un quart d'heure? La chef d'entreprise Isabelle Bordry sera avec nous, l'économiste atterré Frédéric Bocara et Jean-Marc Sylvestre. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr, jusqu'à 20h.
Ça nous promet un débat animé.
Et oui.
À tout de suite.
Good Evening Business, le journal.
Donc pour être franc, on n'est pas tombé vraiment de l'armoire quand l'INSEE nous a confirmé les chiffres ce matin. Bonsoir Thomas Asportas. Déficit public à 5,5% du PIB fin décembre. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour redresser la barre, Thomas ?
Alors, Bruno Le Maire a présenté son plan. Ce matin, en gros, il y a deux jambes, c'est les économies et les réformes. Pour ce qui est des économies, le ministre déjà a rappelé que l'État avait économisé 18 milliards d'euros depuis la fin 2023. L'État avait gelé 8 milliards de crédits en fin d'année, et puis il y a eu les fameux 10 milliards d'euros d'économies annoncés au mois de février. Maintenant, il attend des efforts aussi de la part des collectivités locales qui ont des finances en meilleur état que celles de l'État, justement. Il va les réunir le 9 avril à Bercy pour un haut conseil des finances publiques locales, c'est nouveau. Ce sera inauguré donc en avril à Bercy. Les collectivités ont déjà répondu aujourd'hui qu'elles n'étaient pas là pour éponger la dette de l'État. Le ministre attend aussi un effort de la part des opérateurs de l'État. Les opérateurs de l'État, c'est Business France, c'est le CNC, c'est l'exemple qu'il a donné ce matin, c'est Météo France, bref, partout là où il y a marqué France, parce que là aussi, d'après le ministre, leur trésorerie se porte bien, c'est les mots qu'il emploie. Il attend des propositions d'économie de leur part sous un mois, sans quoi, menace-t-il, c'est Bercy qui fera les économies. Et enfin, Bruno Le Maire attend évidemment des économies du côté de la dépense sociale, 850 milliards d'euros par an. Et le ministre a répété ce matin les dépenses qu'il avait dans le viseur, les arrêts maladie, les affections longue durée et les transports sanitaires.
Donc ça, c'est pour les dépenses, Thomas. Et alors, pour ce qui est des réformes, là, c'est cap sur le plein emploi, véritablement.
Pour le ministre, effectivement, c'est le fil rouge de toutes les réformes à venir dans les semaines et les mois qui viennent, à commencer par l'assurance chômage. Vous le disiez, il y a un séminaire gouvernemental dès demain matin à Matignon. Puis, Gabriel Attal viendra faire des annonces dans la foulée aux 20h de TF1. Et le Premier ministre a d'ailleurs parlé cet après-midi à l'Assemblée de rigueur. C'est le mot qu'il a employé, évidemment, il n'a pas été employé par hasard. Autre réforme, la simplification, présentée en juin. Et le ministre promet qu'elle va booster l'activité des entreprises et donc l'emploi. Et enfin, l'attractivité financière de la France. La réforme, elle arrive à l'Assemblée dans 15 jours. Et l'objectif, là aussi, évidemment, c'est de créer de l'emploi, en l'occurrence dans la finance.
Merci beaucoup, Thomas. Comment est-ce qu'on va sortir de cette situation du côté du gouvernement? On en reparle bien sûr avec nos experts dans quelques minutes sur BFM Business. Dans l'actualité, sinon, je vous le disais, il y a cette petite phrase du ministre des Armées qui semble nous indiquer qu'on a un peu changé de monde. Il l'a dit ce matin, il n'exclut pas, pour augmenter nos capacités de production de matériel militaire, de solliciter les industriels basés en France. Il en a tout à fait le droit. Jean-Baptiste Huette.
Sébastien Lecornu va faire la police. Il le dit lui-même, il s'agit de faire jouer des pouvoirs de police. Concrètement, l'armée pourra réquisitionner du personnel, du stock, des outils de production et même forcer une entreprise à accorder la priorité aux besoins militaires par rapport aux besoins civils. L'objectif, c'est d'obtenir plus rapidement des missiles, des munitions, des obus. Vous l'avez vu depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est toute l'industrie de défense française qui a été poussée à monter en cadence, produire plus, en plus grosse quantité. C'est l'économie de guerre et ça commence quand même à fonctionner. Là, par exemple, on a en cours une commande de 2500 missiles anti-char, Mistral, Aster, Mika. Il y en a pour plus de 2 milliards d'euros. Et la plupart de ces missiles sera livrés cet été, alors que les délais qui étaient prévus, c'était plutôt 2027, 2028. Donc, ça s'accélère. Ceci dit, la route, elle est encore très longue. Créer des nouvelles lignes de production, des nouvelles chaînes dans les usines, réadapter l'organisation, ça demande du temps, de l'argent, beaucoup de travail. Mais c'est vital pour notre commerce extérieur aussi, explique Sébastien Lecornu. Là, ces derniers mois, on a perdu des contrats en Europe de l'Est parce que nous n'avons pas été capables de proposer aux clients des livraisons assez rapides par rapport à, justement à notre concurrence. Et le ministre des Armées a terminé, et c'était intéressant, en vantant son modèle industriel idéal. Et pour lui, c'est le modèle automobile. L'industrie automobile qui est capable de produire en masse avec des très hauts niveaux de technologie. Donc une fois n'est pas coutume, j'allais vous dire, on emprunte aux civils les armes pour réorienter l'industrie de défense. En tout cas, ce modèle de l'industrie automobile fait son chemin dans l'industrie de défense.
Voilà, en tout cas, pour cette petite phrase du ministre des Armées ce matin. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Huet avec nous sur BFM Business. Ariane 6, ça se précise, visiblement le vol inaugural aura lieu, je cite, fin juin, début juillet. C'est ce qu'a déclaré le patron du CNES à Kourou en Guyane où Emmanuel Macron était en déplacement il y a ça quelques heures. Vol inaugural qui, rappelons-le, a pris du retard puisqu'il était prévu à l'origine pour 2020. Le Covid, entre autres, est passé par là. Et puis, on voulait vous dire un mot de Carrefour qui a annoncé aujourd'hui qu'il rachetait 25 millions de ses propres actions, ce qui représente 3,5% de son capital. Ce sont des actions qui étaient détenues par les Galeries Lafayette qui, du coup, ne seront plus le premier actionnaire du groupe. Hélène Cornet nous explique la stratégie.
L'opération est annoncée gagnante par les deux parties, pour Carrefour d'abord, qui s'est engagé dans une vaste politique de rachat d'actions depuis 2020. Cette transaction lui permet d'atteindre la moitié des 700 millions d'euros de rachat prévus cette année. Une façon pour le distributeur de soutenir le cours de bourse et récompenser indirectement ses actionnaires. C'est la holding du milliardaire brésilien Abilio Diniz qui devient du coup premier actionnaire de Carrefour. L'homme d'affaires qui avait une passion pour le retail en France est décédé mi-février. Mais ses héritiers promettent de rester des investisseurs à long terme, sans clause juridique néanmoins pour les y contraindre. Opération gagnante également pour les Galeries Lafayette, qui ont besoin d'argent frais, selon un analyse de Brian Garnier, pour faire face à des échéances de dettes. Et ce, malgré la vente l'an dernier du BHV Paris et plusieurs magasins en province. La vente des actions Carrefour le signe néanmoins que la famille Moulin-Houzé à la tête des galeries ne s'attend pas à voir le cours du distributeur monter dans un avenir proche.
Hélène Cornet. Dans l'actualité, année record pour le chinois BYD, leader mondial, vous le savez, du véhicule électrique. Il a dégagé l'an dernier un bénéfice équivalent à un peu plus de 3,8 milliards d'euros. C'est quasiment le double de ce qu'il avait annoncé l'année précédente. En Allemagne, c'est quand même un petit événement. Figurez-vous que les conducteurs de train de la Deutsche Bahn, donc l'homologue allemand de la SNCF, ces conducteurs vont passer à la semaine de 35 heures sans perte de revenus. Ça faisait des années apparemment que les syndicats le réclamait ardemment. Et puis, on voulait vous dire un mot de ce qui s'est passé à Baltimore. Vous savez, cet énorme pont autoroutier qui a été percuté par un porte-conteneur. Au moment où je vous parle, il y a toujours 6 personnes qui sont recherchées. Le transport maritime a été mis à l'arrêt dans ce port de Baltimore qui est l'un des plus fréquentés des États-Unis. Raphaël Couder.
Chaque jour, plusieurs centaines de porte-conteneurs circulent dans le port de Baltimore. C'est notamment le port américain par lequel transitent le plus de voitures neuves, plus de 800 000 l'année dernière. Baltimore est aussi un point d'entrée important d'importation de sucre. Au total, 52 millions de tonnes de marchandises, soit l'équivalent de 80 milliards de dollars, sont entrées par cette voie aux États-Unis l'an dernier, ce qui en fait le 9e port le plus important des États-Unis en termes de marchandises étrangères. Ce coup d'arrêt pourrait perturber les échanges dans la région. Les ports de New York et de Virginie devraient certes accueillir et traiter une partie de la marchandise destinée à Baltimore, mais leur capacité reste limitée. Quelques mois après les incidents en mer Rouge qui avaient entraîné les tarifs du fret à la hausse, certains experts craignent que ce nouveau grain de sel n'enraye une nouvelle fois la chaîne d'approvisionnement mondiale déjà mise à rude épreuve.
Le coup d'air avec nous sur BFM Business. 19h10, on retourne sur les marchés. On rappelle la clôture ce soir à la Bourse de Paris, petite hausse, plus 0,4% pour l'indice parisien. À la clôture ce soir, 8184 points. Bonsoir Aude Karsulek. Et à Wall Street, pendant ce temps, comment ça se passe, Aude?
Ce sont des indices en hausse aussi depuis le début de séance à 14h30. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément très palpitant. On n'a pas beaucoup d'indicateurs qui nous font monter. Commande de biens durables aujourd'hui, indice de confiance des consommateurs qui était moins bon qu'espéré. Quelques valeurs tout de même. On parlait tout à l'heure de l'accident de Baltimore. Eh bien, c'est par exemple une action du domaine du transport de charbon qui chute lourdement à Wall Street, moins 9% pour Console Energy. Et puis on a d'autres valeurs aussi. Tiens, Tesla qui aujourd'hui reprend du poil de la bête. C'est une valeur qui va vraiment pas bien depuis le début de l'année. On perd même plus que Boeing pour Tesla. Et bien là, on reprend 6% aujourd'hui. Krispy Kreme aussi, après avoir annoncé un partenariat étendu avec McDonald's, qui prend 18%. Et puis on en parlait hier, le réseau social de Donald Trump qui maintenant, c'est officiel, est coté sous le nom de Donald Trump, il prend plus de 50% aujourd'hui au Nasdaq pour son premier jour de cotation. Donc voilà, les indices qui évoluent en ce moment, en ordre dispersé d'ailleurs, puisque le Dow Jones est dans le vert à plus 0,2%, tout comme le Nasdaq, tandis que le S&P est un peu en recul.
Merci beaucoup, Aude Karsulek. Il est 19h12, on revient dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts. On a beaucoup de choses évidemment à voir ensemble d'ici 20h. Les déficits qui dérapent. Séminaire gouvernemental sur le travail demain à Matignon, on verra ça. Et puis la petite phrase de Sébastien Lecornu qui le dit, si l'on va produire plus de matériel militaire, on n'exclut pas, on en a le droit de se tourner du côté des industriels français. Tout ça plus bien autre chose jusqu'à 20h évidemment. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h15, ils sont là, nos experts. Audrey Tcherkov est là aussi. Rebonsoir, Audrey.
Rebonsoir à tous.
Rebonsoir. Et puis, nos experts sont là, évidemment, jusqu'à 20h. Isabelle Bordry, bonsoir, Isabelle.
Bonsoir.
Co-fondatrice de Rétinci. Jean-Marc Sylvestre, bonsoir, Jean-Marc, bonsoir. Éditorialiste à Atlantico. Et Frédéric Bocara, bonsoir, Frédéric.
Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Audrey, Jean-Marc et Isabelle.
Économiste, membre des économistes atterrés. Il y a eu quelques soucis avec les taxis. C'est la vie parisienne, ça, les taxis. Frédéric, qu'est-ce que vous voulez être, voilà.
C'est la vie. Et puis, il pleut, donc tout de suite, le transport change.
Et l'histoire est belle,
comme
c'est
quoi,
c'est,
on
c'est
est...
le miracle. De la
on
télé,
est sur
c'est...
Terre, la nature,
oui,
ça compte.
On arrive à l'heure, c'est le miracle de la télévision, c'est comme ça. Bien, il n'y a pas eu de miracle par contre dans les chiffres que nous a donné l'INSEE ce matin. Déficit public à 5,5% du PIB fin décembre. On est bien au-dessus, Audrey, des 4,9% qui étaient visés à l'origine. Hein.
Ceci dit, ça n'a pas empêché Bruno Le Maire de se montrer toujours aussi volontaire, disons, tout à l'heure à l'Assemblée. Il reste déterminé à être sous les fameux 3% d'ici la fin du quinquennat. Et oui, écoutez.
Rétablir nos finances publiques, revenir sous les 3% de déficit public en 2027, c'est l'engagement que je prends. Et je veux remercier chacune et chacun des parlementaires de la majorité ici, du groupe Horizon, du groupe Modem et du groupe Renaissance, car je sais qu'ils seront au rendez-vous de la responsabilité et du rétablissement des finances publiques.
Eh bien, voilà un échange animé. Alors, pour revenir sous la fameuse barre des 3% de déficit public, la Cour des comptes nous dit que le gouvernement va devoir économiser 50 milliards d'euros d'ici à 2027. Ça vous semble jouable, Jean-Marc?
Ben oui, effectivement, en discours, Pierre Moscovici peut dire ce qu'il veut, puisqu'il n'est pas au pouvoir en plus. Hein, quand il a été,
bah c'est sûr que c'est plus facile.
Quand il était au pouvoir, il était beaucoup plus prudent, d'une certaine façon. Non, je crois que cette affaire de déficit a enflammé le débat politique. Nous sommes en période électorale. C'est assez, d'ailleurs, assez surprenant parce que les hommes politiques sont en train et le monde médiatique est en train de s'emballer autour du déficit, alors qu'il semble pas que ce soit très préoccupant pour la plupart des acteurs et pour la plupart des chefs d'entreprise ou des fonctionnaires. Alors, il y a un décalage entre la façon dont on en parle avec violence et qu'on l'utilise, qu'on l'instrumentalise pour des raisons politiques, et notamment, Bruno Le Maire est assez courageux parce qu'il en prend plein la tête, de ce point de vue-là.
Enfin, il est assez courageux, il a quand même été ministre de l'économie et des finances pendant 7 ans. Donc,
oui, c'est vrai. Il était ministre d'un président et d'un gouvernement solidaire. Peut-être. Vous savez, le directeur financier dans une grande entreprise, il n'est pas responsable non plus de la stratégie, parfois.
Non, mais ce n'est pas l'assistant chef de cabinet.
Non, mais c'est un autre problème. Ce que je pense, c'est que le déficit est une chose, mais je crois que le déficit budgétaire est moins grave que le déficit d'efficacité des dépenses publiques.
Ah,
économique et sociale.
Ah oui, mais c'est lié.
Parce que c'est ça.
C'est lié,
non, ça n'est pas lié. Ça n'est pas lié. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les remèdes qui sont préconisés pour remédier à ce déficit, donc à l'endettement, c'est-à-dire soit un supplément d'impôt, soit un rabotage des dépenses, ne passeront pas parce qu'elles seront refusées par tous les hommes politiques de droite ou de gauche.
Vous avez
C'était vraiment un problème d'efficacité, de gestion et de management des dépenses publiques.
Vous avez l'impression que le monde politique est aussi arc-bouté qu'il était il y a quelques années sur la maîtrise des déficits publics, à part Bruno Le Maire qui fait beaucoup de gesticulations. Et c'est normal, c'est son job.
Non, il n'est pas,
pas le sentiment qu'au sein de la majorité, au sein de l'opposition, on est très beaucoup plus.
Il y a une culture, il y a une culture dans la classe politique et dans l'opinion publique d'ailleurs, qui s'est habituée finalement
plus depuis
à cet endettement et depuis encore beaucoup plus depuis le
Frédéric Bocara. Non mais attendez, parce qu'il ne faut pas faire passer ça pour un chiffre qui n'est pas important. C'est quand même le chiffre le plus alarmant de la Ve République, hormis la pandémie évidemment. Frédéric.
Vous voulez dire le déficit le plus bas, c'est pas le chiffre le plus alarmant.
Le déficit le plus alarmant, le plus creusé. Oui.
D'abord, je voudrais donner quelques éléments. La première chose, c'est que le déclenchement de cette inquiétude, c'est il y a une dimension débat politique sur les commentaires, je partage une partie, mais c'est la hausse des taux d'intérêt par la Banque Centrale Européenne.
Ouais.
Il faut rappeler la responsabilité qu'il y a là, qui a deux effets principaux. Le premier, ça augmente mécaniquement tout de suite par le jeu du renouvellement de la dette. La charge d'intérêt sur le budget de l'État, 18 milliards de plus, on est à 55 milliards même.
Et ça va passer comme trésor. Premier poste de dépense.
Mais on ne le voit pas actuellement. Hein.
Attendez,
on a une baisse.
J'ai fait l'effort de ne pas vous couper.
Oui,
On est passé de 33 milliards de dépenses
oui,
de charges d'intérêt à 55 milliards en 2023. Et ça va augmenter probablement, si. Donc 18 milliards de plus. Et deuxièmement, ça casse la croissance. Alors, dépenser moins pour aller mieux. C'est comme s'il fallait se couper un bras pour peser moins lourd et courir plus vite. Et le sang coule en attendant. Et je pense que c'est vraiment une erreur. Les services publics sont déjà à l'os. Les services publics d'éducation nationale, les services publics de santé, les médecins de ville sont à l'os, y compris parce qu'il y a la démographie chez les enseignants, chez les médecins,
etc. Mais alors,
etc.
On fait comment, Frédéric? Et où est-ce qu'on trouve l'argent?
Il faut se développer pour avaler la dette. Les États-Unis, d'ailleurs, ils viennent, eux, de faire, au contraire, un creusement de leur déficit pour se développer. Il faut se développer pour avaler la dette. C'est comme ça qu'on a fait après 1944-1945. Quand, en 1931, on a fait une déflation, soit nous en 1935 et les Allemands en 1931, ça a amené le fascisme. Ça a détruit la société, etc. Donc non, il faut trouver des avances et les faire autrement, nous sommes d'accord, vers les services publics, vers l'emploi qualifié, par exemple les filières nucléaires.
Oui.
100 000, en réalité 105, parce que 100 000 nets salariés, il faudra en plus dans les filières, mais 150 000 nouveaux à former. Et on donne 3 fifrelins. On donne 600 euros aux stagiaires pendant 2 ans. C'est pas, ça permet pas de vivre.
On a des stages
où la moitié se désinscrit.
Oui, c'est ça. On voit petit globalement, surtout.
On voit petit
sur l'éducation,
surtout.
Sur la transition écologique.
On est dans le malthusianisme.
Voilà.
Tout à fait.
Non, mais attendez,
donc il faut des avances.
Pardonnez-moi.
Attendez, elle me demande quelles avances et j'ai fini. La Caisse des dépôts et consignations, le pôle public bancaire, peut faire ses avances, se refinancer auprès de la Banque Centrale Européenne. Et on peut créer, je l'ai écrit dans un livre, un fonds européen intercalé entre la Banque Centrale Européenne et les États, financé par les euros à 0% de la Banque Centrale Européenne, financer les dépenses publiques des États si elle développe l'emploi. Et ça, c'est autorisé, y compris par les traités. Mais il faut y aller.
On fait un premier tour de table et on revient à vous, Frédéric, dans un instant. Je vois le point de vue de l'entrepreneur Isabelle Bandry ici présente qui doit se dire depuis des années, mon Dieu, si la France était une entreprise, elle serait éparpillée façon puzzle depuis longtemps.
Comment
est-ce qu'on trahit
et juste un mot sur le rôle du ministre des Finances, le directeur financier que vous évoquiez tout à l'heure. Le principal rôle d'un directeur financier, c'est de savoir dire non pour mieux maîtriser les coûts.
Absolument.
Et ça, c'est un point clé. C'est lui qui, il est effectivement pas en charge de la stratégie, mais il est là pour l'orienter aux côtés du directeur général ou du président.
Et il aurait été licencié il y a longtemps s'il avait poussé
le sable autant
dans une entreprise.
Après, je suis d'accord avec vous, il ne faut surtout pas arrêter la croissance. Et ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'effectivement, il y a eu un coup d'arrêt des rentrées, des recettes fiscales, puisque la croissance n'était pas là. Mais je pense que l'impôt tue l'impôt.
Mais j'ai pas parlé d'impôt.
Et qu'il y a un moment donné où on ne peut plus faire progresser l'impôt, quelle qu'en soit la forme. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'impôt sur la consommation, mais l'impôt sur la production en France représente une part du PIB très largement supérieure à tous nos voisins européens. Donc ça, ce sont des choses. On n'a plus de marge de manœuvre. On n'a plus aucune marge de manœuvre. Je suis d'accord avec vous sur le fait que le service public, et ça va de pair avec la frustration des Français qui ont l'impression de payer des infos et avoir moins de qualité sur les services publics, ne fonctionne plus. Mais je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que c'est en remettant de l'argent dans les services publics qu'ils marcheront mieux.
De l'emploi, surtout.
Je pense qu'il y a des problématiques de gestion. Et que ce qu'il faut aujourd'hui, alors c'est une discussion qu'il y a en ce moment avec les partenaires sociaux, c'est reprendre les lignes les unes après les autres et s'assurer de leur efficacité. Et je suis sûre qu'on trouvera des poches. Ce n'est pas normal que les professeurs en France soient moins bien payés que les professeurs en Allemagne, alors que le budget global de l'éducation nationale est inférieur en Allemagne. Donc il y a des strates qui sont des strates de back-office sur lesquelles il y a clairement des économies à faire.
Mais alors je rebondis juste sur le sujet des impôts, Isabelle. En effet, on est sur la première marche du podium européen concernant les prélèvements sur le capital et sur le travail, mais pas sur la consommation. Sur la consommation, on est au 14e rang.
Pour la TVA, on est
en pourcentage du PIB, on est à 2,5% de plus du PIB sur la consommation.
Alors vous dites que la TVA sociale,
à la moyenne,
c'est une ligne rouge.
Ah ben oui.
Ah ben regardez, les gens n'ont plus d'argent, le pouvoir d'achat.
Oui, mais Bruno Le Maire vous vend ça en disant la contrepartie de cette TVA sociale, c'est qu'on va soigner un petit peu le salaire, voilà.
Non, c'est pas. C'est
oui,
non,
mais
c'est
le salaire est mangé par les cotisations sociales.
J'entends bien.
Donc il y a eu un peu un effort sur les cotisations sociales depuis maintenant 3 ans et elles ont baissé en pourcentage du PIB. Les deux qui ont largement augmenté, c'est l'impôt sur la production et l'impôt sur la consommation. On ne peut plus faire payer d'impôts aujourd'hui, ni aux acteurs économiques, ni.
Mais si on ne peut pas augmenter les impôts et qu'on ne peut pas augmenter les recettes, puisque la croissance est en Berne et que la productivité aussi avec une courbe du chômage qui s'inverse, comment fait-on?
Alors non, je dis il faut faire des avances, il faut faire des avances et il faut de l'emploi dans les services publics, il faut de l'emploi. Il y a moins de dépenses dans l'éducation nationale globalement en Allemagne parce qu'il y a moins de jeunes. C'est la démographie qui fait ça.
Je crois qu'il y a autant de professeurs.
Non. Si on rapporte les dépenses, j'ai fait le calcul, j'ai regardé les chiffres de l'OCDE, si on fait le calcul des dépenses non pas en pourcentage de PIB, mais par tête de pipe, la France et l'Allemagne sont très proches en réalité. Donc non, il
mais
faut
c'est toujours pas
de l'emploi
que les
dans les services publics, il faut de l'emploi
payés
à l'hôpital. Oui. Il y a une démographie qui fait que les médecins, les infirmières aussi sont partis à la retraite. Et dans les impôts, il faut jouer l'incitation, c'est-à-dire pénaliser les entreprises qui vont fragiliser la croissance, qui versent des dividendes de développer l'entreprise au lieu de développer la qualification, l'emploi, et favoriser par des taux favorable d'imposition sur les bénéfices, les entreprises qui développent. Il faut jouer les deux
mais
choses.
Si, monsieur, vous ne payez
c'est-à-dire
plus de dividendes,
pousser et assainir
vous ne pourrez
la croissance
plus investir.
C'est pas interdire les dividendes, c'est favoriser, inciter.
C'est
et pénaliser de l'autre côté.
Et pourquoi pas taxer le rachat d'actions,
oui,
Jean-Marc Sylvestre.
Jean-Marc,
non, moi je crois qu'on ne pourra pas effectivement augmenter la pression fiscale et sociale, l'ensemble des prélèvements, parce qu'on est vraiment au top, au maximum, et on ne pourra pas non plus baisser les dépenses publiques pour les raison que vous expliquez.
Pourquoi ?
Et c'est ça que l'opinion publique
exprime.
Ne comprend pas bien, parce que en fait, les services publics ne fonctionnent pas. Ils ne donnent pas satisfaction aux clients, si vous me permettez d'appeler le
usager. Ne me demandez pas de vous permettre, parce que moi je suis usager, moi. Bon,
le service de la santé, avec tout l'argent qu'il récupère, ne fonctionne pas. Le service de l'école ne fonctionne pas. Je parle
fonctionne
pas des
mal,
transports publics.
Fonctionne mal, ça fonctionne
et
pas.
Ça n'est pas en augmentant l'addition à la fin du mois, en
non, mais c'est pas une question de montant, c'est une question
que
de méthode.
Alors, c'est une question de méthode, c'est une
question de management,
d'efficacité. Alors attendez,
de formation et nombre de gens.
On pourrait essayer de voir ce qu'on fait dans d'autres pays, l'Italie par exemple, qui a commencé à faire des privatisations.
Oui, alors ceci dit,
dans la réunion que j'ai faite, ils ont dit c'est très spécial chez nous, tout le monde leur a dit qu'on parlait de la France.
On pourrait aussi s'interroger sur les rares services publics qui fonctionnent bien. Dans le social, il y a des choses qui fonctionnent pas trop mal. Hein. Le système de l'assurance chômage, ça fonctionne bien.
Justement, il en parlait.
On va en parler.
Demain,
le président de France Travail dit qu'il n'y a pas assez de monde.
Demain, ça marche bien, mais ça va être réformé.
Demain, on peut aussi des annonces sur l'assurance chômage dans le privé.
Oui,
la mise en concurrence.
Le président de France Travail dit qu'il n'a pas assez de salariés justement pour s'en occuper.
Ça, c'est le rôle de chaque.
Il en faut deux fois et demi.
Justement,
demain,
c'est pas le rôle demain, de c'est de dire non.
Il reste 3 minutes demain, possibles annonces,
avant que
possibles annonces demain de Gabriel Attal sur l'assurance chômage. Est-ce qu'il faut retourner? Est-ce qu'il faut un nouveau tour de vis? C'est potentiellement ce qui pourrait être annoncé demain. Donc,
regardez ce qui se passe sur le système des retraites. Pourquoi se braque-t-on en France et on s'interdit de toucher et d'inventer un système par capitalisation?
On parle du chômage, là, on parle pas des retraites. Il faut être dans le sujet.
Le
grand enjeu, c'est la formation et la pénurie d'emplois qualifiés, y compris pour les entreprises. Et là, on cherche à tordre le bras pour que les gens baissent leur rémunération pour qu'ils aillent plus vite prendre n'importe quel travail. Il faut mettre dans la formation, c'est des dépenses d'avenir.
On vous interroge sur l'assurance chômage.
Le chômage, c'est les partenaires sociaux qui le gèrent.
Non, mais d'accord, mais en fait,
serrer la vis,
l'obsession actuelle, Frédéric Bocara, pour le gouvernement, en tout cas, autant de la part du Premier ministre que du chef de l'État, c'est de faire en sorte que le travail paye plus que l'assistanat.
Mais ce n'est pas de l'assistanat, le chômage. C'est la formation, c'est un revenu de remplacement.
Non, mais la durée.
Pas d'argent.
Non, actuellement, on dit aux gens, reprenez n'importe quel travail. Au lieu de les former, on manque de soudeurs, on manque de chaudronniers.
Oui, mais c'est pour ça qu'il y a France Travail.
D'aide soignants.
Mais c'est pour ça qu'il y a France Travail qui est censé apporter des solutions sur la partie formation.
Non, France Travail est censé mettre les gens pour qu'ils reprennent tout de suite un travail au plus vite possible, au lieu de les former. Il faut des formations de qualité. Dans les entreprises, après, ils pleurent, ils n'ont pas les gens bien formés.
Exactement.
Ils ont raison.
La grande difficulté, c'est d'arriver à avoir ce qu'on appelle les métiers sous tension et d'avoir effectivement un fléchage de la formation sur des métiers dont le secteur économique a besoin. En tant que chef d'entreprise, on ne m'a jamais demandé de quel profil j'avais besoin. Je n'ai jamais eu un contact avec les équipes de Pôle emploi. Jamais. Donc, effectivement, il doit y avoir des systèmes
qui fonctionnent. Les chambres de commerce sont faites
pour ça. Qui fonctionnent.
Les écoles.
Mais force est de constater qu'aujourd'hui, je cherche à recruter des ingénieurs de haut niveau et on ne les trouve pas. Mais ça, on a un vrai problème de vivier par rapport aux ingénieurs en France. Donc, je suis d'accord avec vous. Il y a un problème de formation. Il y a un problème de formation, mais c'est pas forcément à l'État.
Mais on met des règles qui raccourcissent la formation. Je viens d'avoir des amis qui sont à Belfort.
Il y a pas des règles qui raccourcissent la formation.
Si, c'est ça, ce qui pour enseignez-vous.
Qui raccourcissent la période de chômage, ça n'a rien à voir.
Non, des règles qui disent les gens doivent prendre le plus vite possible un emploi, et donc ça amène à raccourcir la durée de formation. Vous savez comment fonctionne la gestion par indicateur? Il me semble que vous ignorez comment ça fonctionne dans notre société. J'ai eu des amis qui sont à Belfort, bassin industriel d'importance.
Oui, oui.
Eh bien là, on ferme les formations. Là, les jeunes, les entreprises viennent les débaucher avant même qu'ils aient leur diplôme et les rejettent au bout d'un an, un an et demi. Il faut mettre de la sécurité parce que c'est la créativité.
Les entreprises en forment des formations longues. Les entreprises en forment aussi beaucoup aujourd'hui.
Parce que l'industrie automobile de Belfort, elle avait bien géré.
Mais c'est pas l'automobile à Belfort que vous trompez. Hein, non, c'est Sochaux. À Belfort, c'est Alstom avec les trains. Et c'est General Electric.
Non, mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait l'industrie automobile.
Non, c'est Sochaux.
Jean-Marc Sylvestre a raison.
C'est Sochaux.
Allez, 19h30 au milieu de tout ça sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business, vous êtes avec les experts du soir. Isabelle Bandry, Frédéric Bocara et Jean-Marc Sylvestre. On vous parle d'économie de guerre. Cette petite phrase de Sébastien Lecornu qu'il a dit ce matin, pour faire face aux besoins de notre propre défense, mais aussi accélérer le soutien à l'Ukraine dans la durée, eh bien, il n'exclut pas de se retourner vers les industriels.
Bah oui, ça veut dire concrètement qu'on va demander aux industriels d'accorder, je cite, la priorité aux besoins militaires par rapport aux besoins civils. Ça veut dire, pour produire plus, qu'on va réquisitionner quoi, certains de leur personnel, certains stocks, certains outils de production. Je ne sais pas vous, c'est le genre de petite phrase qui laisse penser qu'on a changé de monde quand même.
Alors, ce n'était pas une petite phrase. En tout cas, c'est une phrase, on le disait tout à l'heure, lourde de sens. Isabelle Bandry.
Oui, et ce qui est terrible, c'est que je pense que depuis 30 ans, la filière de l'armement s'est vu racorni, diminué, avec moins de commandes. Peut-être
comme le nucléaire,
Depuis, un peu comme le nucléaire. En fait, peut-être porté au départ par Chirac, qui était un grand optimiste, qui se disait plus jamais il n'y aura de guerre, et puis ensuite par un manque d'intérêt. Mais aujourd'hui, vous regardez le budget du ministère de la Défense, il est de l'ordre de 50 milliards, ce qui est moins que la charge de la dette. Donc si on met tout en perspective, effectivement, ça interpelle. Donc au-delà des problèmes de stock qui évoquait Lecornu, je pense qu'il y a plus que ça. Il y a un problème d'une filière qui, depuis en fait 30 ans, a perdu du savoir-faire. On n'a plus les machines pour construire les canons, on n'a plus les machines pour construire les fusils. Aujourd'hui, les militaires utilisent un fusil allemand.
Aujourd'hui, les militaires ont des voitures, des camions qui ont été en fait construits dans les années 60, qui ont été rénovés dans les années 90. Donc il y a un vrai problème de politique de l'armement qui, depuis 30 ans, n'a pas été suivi, n'a pas eu de vision et n'a pas su préserver des savoir-faire.
Bah c'est bien pour ça que là, enfin aujourd'hui en tout cas, on a entendu des options plutôt choc, hein, réquisitionner les sites industriels, fixer des priorités aux fabricants d'armes. Est-ce que c'est la solution?
Mais ça ne va pas se faire en 24 heures. Bien le problème, que c'est que c'est des filières qu'il faut reconstruire.
Je pense que le discours du ministre de la Défense est dans la ligne du discours du président de la République depuis une quinzaine de jours et ça fait partie de la guerre de communication qu'il y a avec les Russes, en essayant de montrer à la fois une agressivité, une détermination, et le fait aussi qu'on se prépare. Parce que dans les faits, sauf si demain ils nous annoncent qu'ils doublent le budget du ministère de la Défense, c'est-à-dire qu'ils ajoutent effectivement 50 milliards à ce qu'il a, ce qui serait quand même assez peu probable, parce que je ne vois pas où il va les trouver, il ne les a pas. Et puis d'autre part, même s'il réindustrialise et s'il refait partir les industriels dans l'armement, ils vont se préparer pour la prochaine guerre, hein, parce qu'ils vont pas être prêts.
Non, mais là, est-ce qu'on est en train de préparer l'opinion à l'idée que, bon, bah voilà, les enfants aujourd'hui,
oui, il va falloir faire un effort.
La défense aujourd'hui, c'est grosso modo 2% du produit intérieur brut. Demain, entre les velléités de Vladimir Poutine, le fait que Trump soit réélu, donc l'Amérique se retire de l'OTAN, ça sera pas 2, ça sera 3, 4, 5% de notre produit intérieur brut qu'il faudra investir dans la défense, finalement.
Voilà,
en France, notamment.
C'est un peu là-dessus que je voulais faire les remarques. La première chose, c'est qu'effectivement, on monte l'économie de guerre et en disant, parce qu'il le dit aussi dans la déclaration, que c'est pas possible de faire l'économie de paix et le social en même temps. Il le dit lui-même, hein, dans sa déclaration.
Oui.
Mais ça va, c'est à la fois pour faire peur, préparer les gens, et ça va tendre aussi les relations de travail. Il faut faire attention. Hein. Vierzon, Tarbes, Toulon, Brest, tous les endroits où il y a des sites industriels militaires qui existent encore, Bergerac,
c'est censé etc. aussi justement créer de l'emploi. Bon.
Quelle est la stratégie, à mon avis, de Macron? Parce qu'il y a Jean-Marc Sylvestre parle de stratégie et de communication. Effectivement, je pense qu'il y a une volonté de montrer un leadership sur le front, face à une fragilité supposée de l'Allemagne.
Leadership européen.
Oui, c'est ça. Et d'apparaître un peu comme bon élève vis-à-vis des États-Unis, de les suppléer, de se préparer à leur départ et de les laisser pouvoir faire en Chine. Mais est-ce que pouvoir être libre de faire sur la Chine? Mais est-ce que ça prépare la sécurité, ça? Parce qu'on a deux impérialismes en réalité qui s'opposent, à mon avis, à travers ça. La paix, c'est pas en insistant sur l'OTAN comme le fait Emmanuel Macron. Il faut quand même cette question de la neutralité de l'Ukraine, elle doit être sur la table. De Villepin en parle. Marek Alter en a parlé il y a déjà un an. Il y a les accords de Minsk qui réfléchissaient sur un statut spécial. Il faut dire ce qu'il y a dedans. Statut spécial pour la région de Luhansk et de Donetsk, c'est-à-dire à peu près le Donbass, avec sécurisation. Pourquoi il ne faudrait pas mettre des casques bleus là-bas? Pourquoi on ne pourrait pas mettre des casques bleus là-bas? Sécuriser, organiser une consultation. Il faut essayer d'une désescalade. Bien sûr, il y a une industrie à reconstruire, et vous avez raison, ça prendra du temps. Mais je pense que la politique, ce serait plutôt une désescalade. Et on a des moyens, et je trouve qu'on
on
cherche plutôt de la communication politicienne.
Moi, je suis d'accord là-dessus. Non, mais
on n'a pas de moyens financiers, on a des moyens.
Non, des moyens diplomatiques.
Ah oui, diplomatiques, mais on n'a pas d'argent.
Le principal moyen diplomatique, c'est de ne rien dire. Et je pense que le gouvernement dit trop sur la façon dont il se prépare face aux Russes. Et laisser l'ambiguïté régner, c'est ça.
Aujourd'hui, Poutine comme ça sur ne semble pas vouloir arrêter la guerre.
C'est Poutine qui est le maître des horloges actuellement.
Voilà. Donc aujourd'hui, bien sûr, l'Ukraine zone neutre.
C'est quand même lui qui a commencé l'agression.
Madame, et puis on revient.
Isabelle Bordry.
Je pense que c'est pour ça que expliquer le cornu aujourd'hui est effectivement lourd de sens, c'est que la diplomatie patine et que là, ils se mettent dans une disposition de se mettre en guerre et de se donner la capacité de réagir. Parce que la diplomatie aujourd'hui n'avance pas en Ukraine.
Mais la diplomatie, elle donne des armes à Poutine pour se faire soutenir par son peuple.
Mais non.
Mais si, en insistant à ce point sur l'OTAN. En disant pas, on se met à table, on négocie, on discute. Il faut pousser. Moi, je pense, alors, on a parlé de Munich, je pense qu'on est plutôt comme en 1905 avec le Maroc, ou peut-être comme au moment de la Yougoslavie en 1914.
Pourquoi ?
Parce que on peut arrêter les choses. On est capable d'arrêter les choses. Sinon, là, on est en train de préparer les gens à un engrenage qui peut aller très très loin. C'est pour ça que ces provocations renforcent le soutien du peuple russe à Poutine. Il faut dire on respecte les deux peuples.
Pardonnez-moi, mais c'est un peu n'importe quoi.
Non, c'est pas n'importe quoi.
Attendez, Jean-Marc Sylvestre.
Pardonnez-moi, mais vous avez entendu le discours des Russes et le discours de Poutine.
De Poutine,
et puis de son entourage. Hein. Oui. Pardonnez-moi, la façon dont le patron de la Douma est intervenu, la façon dont Medvedev. Mais enfin, ils sont dans une situation totalement agressive à l'égard de l'Occident.
Mais il faut parler au peuple russe aussi.
On n'a même pas osé en intérieur.
C'est un autre débat, Jean-Marc.
Que l'attentat était d'origine islamiste.
Non, mais d'accord, attendez.
En tous les cas, il faut reconstruire la filière de l'armement qui, depuis 30 ans,
Oui, mais concernant, c'est
absolument mis à l'arrêt.
Pardonnez-moi, attendez, une question concernant ce réarmement de la France. Je vous rappelle, et Sébastien Lecornu l'a dit lui-même, 80% des obus qui sont censés être produits ne sont pas pour la France, mais sont pour l'Ukraine.
Alors, le problème de notre industrie d'armement, c'est qu'elle n'est pas détruite, mais elle est construite comme une industrie qui repose sur l'export et sur la projection à l'extérieur, et pas comme une industrie de défense nationale. Voilà. Moi, j'ai rencontré les salariés à Toulon, des arsenaux, et ils m'expliquent ça.
Oui, mais attendez, l'export permet de maintenir des commandes.
On ne doit pas se reposer là-dessus, parce qu'on voit qu'on a du coup une industrie qui est déformée. Donc, il faut la reconfigurer.
Et la part de notre matériel militaire importé aujourd'hui de l'étranger.
Même dans les chars, la moitié de la valeur du jeu.
Je repose la question que je vous posais tout à l'heure, c'est est-ce qu'il faut se préparer à ce que demain les dépenses militaires ne pèsent plus 2, mais 3, 4, 5 % de notre
produit intérieur brut. Il faut sans doute s'y préparer, mais il faut aussi se préparer à une négociation, si négociation il y a, au niveau européen. Parce qu'actuellement, vous n'avez que la France qui maintient un effort de guerre.
L'Allemagne a pris des décisions.
Et il faut recréer l'industrie française.
Non, mais attendez, avec des financements communs. Non, avec des financements communs et des discussions, justement, qui ont aujourd'hui lieu et qui n'ont jamais eu lieu.
Il y a le projet d'avion de défense européenne qui est maintenant sur la table, quand même.
Et Isabelle conclut.
La question de la constellation de satellites européens aussi.
Isabelle,
il faut absolument recréer une industrie effectivement de l'armement qui pèsera dans nos discussions même diplomatiques. Et aujourd'hui, il y a eu des fusions de structures qui ne permettent pas d'avoir une dynamique dans ce secteur-là et il faut revenir sur ces sujets.
Ouais, mais on a privatisé
quand vous avez
en
plus
DCN.
Qu'une...
Enfin, la guerre en Ukraine a quand même réveillé l'Europe sur le sujet.
Oui, mais on a une. Je dis bien, elle est mal construite, l'industrie d'armement. Elle est existante. On est le deuxième exportateur mondial en masse. Donc on a une industrie d'armement.
Merci, monsieur Dassault.
Mais elle est mal construite.
Aujourd'hui, on n'a plus les capacités à produire des.
Et pour la projection extérieure, pas pour la défense nationale.
Allez, voilà pour la petite phrase de Sébastien Lecornu. Voulez-vous nous dire un petit mot d'Atos? Vous me direz, bon, on en parle quasiment tous les jours ici sur BFM Business. Chaque jour, son épisode. Donc Atos qui annonçait ce matin perte très significative, nous rappelait Mathieu Pechberti.
Oui,
3,4 milliards d'euros l'année dernière. Pas de soucis en vue des Jeux Olympiques. Bon, c'est toujours bon à savoir. Et l'objectif, nous dit Atos, c'est d'avoir trouvé un accord pour restructurer notre dette d'ici fin juillet. C'est dans 4 mois. Les marchés financiers n'ont toujours pas l'air fondamentalement rassurés par ce que nous dit la direction d'Atos.
Oui, mais les marchés financiers, pardon, je prends la parole, mais ont accompagné la société pour passer le cours de bourse de 13 à 100 euros pendant une petite dizaine d'années.
Exactement.
Et les marchés financiers ont validé une stratégie build-up de croissance à tout prix, d'achat de sociétés du type Xerox, Bull, Siemens, qui a été faite pour aller à une course au chiffre d'affaires, à une course du nombre d'emplois et pour lequel il n'y a pas eu de synergie véritable. Donc en 2019, juste avant le Covid, la société a commencé à perdre un peu de son cours de bourse, puisqu'il y a eu une petite prise de conscience des marchés, qu'effectivement les synergies n'étaient pas là et que cette course au chiffre d'affaires n'était pas en soi un objectif. Et ensuite, ça a été de mal en pis. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que à la différence d'entreprises qui peuvent grossir leur chiffre d'affaires en faisant du build-up, comme par exemple les sociétés de conseil, parce que vous achetez des hommes et vous augmentez du chiffre d'affaires, quand vous avez des sociétés d'informatique, de techniciens, d'ingénieurs, il faut que tout le monde travaille ensemble pour produire des synergies. Et c'est ce qu'Atos n'a pas réussi à faire.
Oui, alors avec en plus une communication financière un peu
des patrons
douteuse.
Et c'est une vraie stratégie, à mon sens, entre autres de Thierry Breton.
Absolument, dans la mesure où, en plus...
Alors, vous dites la faute à Thierry Breton.
Suffisamment indulgente, c'est que la stratégie qui a été menée et qui a effectivement fait booster le cours de bourse est une stratégie qui a buté sur le mur des réalités, puisque Google est arrivé avec son iCloud, et ça a complètement dépossédé Atos d'une grande partie de son chiffre d'affaires de l'infogérance. C'est à ce moment-là qu'il aurait sans doute fallu changer.
Et ce qui est triste, c'est qu'il y avait effectivement chez Atos des savoir-faire, notamment dans les outils de paiement, enfin dans pas mal de sujets, des techniques en pointe qui aujourd'hui, j'espère, vous subsistez.
Mais que Atos ait des difficultés, moi, franchement, c'est la règle du capitalisme et de l'économie de marché. Hein.
Oui, mais ce sont des intérêts souverains quand même, avec certains aspects.
Ce sont les contribuables qui sont appelés à venir à la rescousse de Atos. Là, je ne suis plus d'accord.
Il y a quand même des effets de bord qui sont plus que des effets de bord. Je suis content qu'on parle d'Atos. J'avais alerté sur Atos.
On en avait parlé, en effet.
En contact avec les salariés. Alors, Atos, il faut rappeler pour les gens ce que c'est. C'est les seuls, par exemple, en Europe, à être capables de construire un super calculateur. C'est l'ex-Bull, en fait, hein, mais qui s'est beaucoup développé.
Alors, un super calculateur nucléaire. Hein.
Oui, c'est toute la chaîne. On peut faire les jumeaux numériques, en fait, aussi bien du nucléaire pour simuler les explosions nucléaires, les essais nucléaires, que des jumeaux numériques pour le transport. Donc, c'est assez. Et il y a le cloud. Donc, c'est assez souverain.
Non, le cloud,
c'est assez...
ils sont pas dedans.
Il y a l'enjeu du cloud. Ils ont du savoir-faire sur le cloud et sur la gestion et sur la gérance. Ouais. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est décisif pour la souveraineté numérique et pour l'écosystème de l'ensemble de l'économie française.
La partie cyber.
C'est une sorte d'infrastructure informationnelle immatérielle.
Est-ce que vous dites qu'on va trouver une solution?
On parle même de nationalisation temporaire.
Non, attendez. Le gouvernement était très clair là-dessus. Il n'y aura pas de nationalisation temporaire.
Par exemple, BPI va jouer son rôle.
Mais en tant qu'actionnaire minoritaire, quand on regarde, ou des acteurs viendront.
Ma question, c'est surtout pourquoi faire. Quand on regarde la situation financière d'Atos, les banques, je ne sais pas si vous avez regardé les prêts bancaires, c'est à 18 mois, à 2 ans. Enfin, c'est ahurissant de faire des prêts aussi courts. Donc les marchés financiers d'un côté, les banques de l'autre, je pense qu'il y a une relation et une négociation à faire avec les banques, parce qu'il y a quelque chose qui est souverain.
Mais il y a des banques qui sont en train de convertir leur dette en capital. C'est ce que la Société Générale commence à faire.
Mais les banques, ça veut dire qu'ils ont, en réalité participé à l'étranglement d'Atos. Donc la question...
C'est l'inverse.
Mais non, parce que... pousser au dépeçage à la vente par appartement d'Atos qui a échoué finalement. Pousser au déficit à cause des charges financières.
C'est un problème de stratégie de départ.
Mais les banques ont poussé à ça. Donc le problème, c'est quel projet? Et il faut le débattre avec les salariés, avec les cadres, l'ensemble de la structure salariale. Mais je voudrais souligner un dernier point, sortir d'Atos, parce que je pense que c'est pas que Atos qui est dans cette situation. Avec la montée des taux, vous savez, vous rappelez la phrase de Vittori, quand la mer se retire, on voit ce qui se passe sur la plage.
Ils sont moins efficaces.
Pas seulement. Avec les dettes
élevées...
Ceux
qui n'ont pas de maillot de bain, c'est
Warren Buffett. Voilà, c'est Warren Buffett. Je peux vous assurer que c'est moins efficace.
Avec les dettes élevées, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont souffrir. Comment on fait si derrière ces entreprises, il y a des intérêts qu'on juge pivots, décisifs, souverains, fondamentaux pour l'économie française ou pour son écosystème? Je pense qu'il faut beaucoup mieux s'outiller là-dessus. Et il y a un enjeu systémique du côté des banques, je maintiens, pour qu'elles accompagnent autrement, avec d'autres critères, avec
une vision. De toute façon, une chose est sûre, c'est que la dilution très forte des actionnaires va être difficilement évitable.
Et on ne sait toujours pas quelle sera la stratégie dans quelques temps.
Que va faire le public
Est-ce qu'on va scinder à 100?
Je suis quand même très étonné.
Quelle discussion avec les salariés?
Franchement, ce qui savent des choses, les âgés là-bas. Très étonné que vous souteniez que les actionnaires qui ont quand même profité de la situation pendant toute une période, puisqu'ils sont passés de 10 euros à 100 euros, vous sembliez vous apitoyer sur leur sort, qui maintenant ils vont perdre.
Non, je ne m'apitoie pas sur leur sort.
Sur la disparition
d'une activité qui est pivot.
Leur porter secours. Il faut demander à l'État de nationaliser.
Vous n'avez pas compris.
Vous avez dit qu'il fallait nationaliser.
Mais ça ne veut pas dire racheter des parts aux actionnaires, forcément.
Allez, voilà pour le dossier Atos. On y reviendra sans doute.
Vous avez une vision très mitterrandienne de la nationalisation.
3 minutes pour un sujet.
Pas celle de Marcel Paul, une vision Marcel Paul.
3 minutes pour un sujet qu'on voulait vous soumettre.
La semaine, non pas de 4 jours, mais en 4 jours, puisque ça y est, le public se lance. Les fonctionnaires vont l'expérimenter. reporté cette semaine en 4 jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne ou mauvaise idée?
Isabelle, Gérette Annecy, on tente ou pas dans ce chose?
Déjà, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que c'est le même nombre d'heures de la semaine réparties sur un nombre de jours différents. Moi, je suis assez perplexe parce que je pense que peut-être que pour l'école blanche, c'est quelque chose qui est facile à organiser. Je pense qu'il y a des métiers qui sont très contraignants physiquement. Et que demander des gens à faire le même nombre d'heures sur moins de jours peut être compliqué. Donc aujourd'hui, dans les univers de conseil, etc., on peut organiser son travail, on peut, voilà, on a moins de contraintes.
Mais c'est donc, vous dites que ça va favoriser les cadres dirigeants?
Pardon?
Vous me dites que ça va favoriser les cadres dirigeants?
Je pense que c'est, ça va favoriser ou ça peut peut-être aider ou aller dans un sens un peu comme le télétravail sur une fourchette de gens cadres qui aujourd'hui sont censés pouvoir s'organiser. Ça ne va pas aider les gens qui ont des métiers plus difficiles.
Est-ce que ça se tente, Jean-Marc?
Oui, il y en a pour
la semaine en 4 jours. Attention.
Pour qui travailler 4 jours, ça va demander un effort hein, quand même, oui. Hein, pour certains. Hein. Mais sur les 4 jours, on me dit aussi qu'il va falloir 2 jours, on va avoir droit à 2 jours de.
Maximum dans la fonction publique. Maximum dans la fonction publique.
Maximum
attention.
Dans la fonction oui. publique sur les 4 jours.
Non. On travaille en télétravail?
Oui.
Hein
oui, oui.
Je sens comme une bonne ironie, je pense que
on est à un moment où il faut quand même
produire
un peu plus de travail et un peu plus de
produit. De la
je pense que ça va être productivité. S'il y a de la productivité derrière, moi je suis d'accord, mais c'est pas prouvé. Hein,
je pense que ça va être très compliqué à réorganiser. Ça intensifie la charge.
Déjà les 35 heures, on a tout foutu en l'air.
Y compris pour certains cols blancs qui font du répétitif, parce qu'il y a toutes sortes de cols blancs. Ça intensifie la charge et ça va amener des coûts de réorganisation un peu désordonné. Je pense que c'est beaucoup une communication, mais c'est aussi se saisir sans avoir forcément en tête le bien et l'intérêt général de souhaits qu'ont un certain nombre de salariés de souffler un jour de plus. Mais je ne suis pas sûr que ça va être
très efficace. Je vous rappelle quand même que depuis le 1er septembre, la métropole de Lyon, qui est quand même la plus grosse collectivité territoriale en France, justement teste cette semaine en 4 jours. Et il y a une augmentation de la productivité, justement, une réduction évidemment des temps de transport, meilleure conciliation vie professionnelle, vie personnelle. En tout cas, ça a semblé convaincre les plus sceptiques.
Mais la productivité n'est pas globale. Un indicateur formidable. D'efficacité dans les services publics.
Non, mais le bien-être. C'est important.
Dans l'industrie, la productivité, on peut voir comment l'injure. Dans les services publics, ça n'a pas grand sens, la productivité. Hein.
C'est la question de la productivité, effectivement, qui sera au centre.
Dans les services publics, ça n'a pas grand sens. Hein, c'est...
Ouais, mais j'espère dommage, que ça en a.
Non, l'efficacité, le service rendu, mais ce n'est pas la productivité.
Bah, c'est lié, Frédéric Jarman.
Allez, 3 minutes de productivité encore, si ce n'est pas trop vous demander. L'extra time, tout de suite sur BFM Business, vos humeurs du soir, coup de gueule ou coup de cœur sur 30 secondes, c'est la règle impitoyable. Isabelle, est-ce que vous voulez commencer?
Alors moi, j'ai un coup de cœur. C'est un livre formidable que j'ai lu récemment qui s'appelle « L'homme augmenté » de Raphaël Guyard. Ah oui. Et qui explique, parce qu'on en avait déjà parlé sur ce plateau, avec la société Neuralink, par exemple, d'Elon Musk, qui met des implants dans le cerveau pour augmenter l'homme, et qui explique, d'un point de vue médical, ce qu'il est possible de faire. Et qui explique depuis toujours, l'homme s'augmente, c'est comme ça qu'on se répare, et effectivement, la qualité de vie est améliorée, on vit beaucoup plus longtemps, donc ça fait très longtemps qu'on s'augmente. Ouais. Maintenant, le cerveau est un élément très complexe, très difficile à décoder, et donc avant d'augmenter les capacités intellectuelles des humains, il y aura du temps.
Ça s'appelle, vous l'avez dit,
L'homme augmenté.
Et la femme.
Je l'ai lu et je recommande aussi l'homme et la femme, évidemment. L'homme
bien sûr.
Jean-Marc Sylvestre,
je mettez pas en doute. Jean-Marc, 30 secondes. Allez.
Ah, moi, je reviens sur votre débat du début. J'ai trouvé l'étude de l'OCDE qui lance un signal d'alarme sur l'endettement mondial.
Oui.
Et l'endettement mondial se chiffre à 100 000 milliards de dollars actuellement. Endettement des États pour une bonne moitié, endettement des entreprises pour un gros tiers, et puis les particuliers. L'endettement le plus dangereux est sans doute celui des entreprises, parce que les États ont du mal en général à payer leurs dettes, certes, mais à faire faillite. C'est très inégal, ça. Hein, les États-Unis sont le pays le plus endetté.
Oui, mais alors attendez, parce qu'il ne faut pas laisser entendre que tout le monde s'endette, hein, Jean-Marc. Les Pays-Bas sont de très bons élèves, le Portugal, l'Espagne aussi.
Je voulais vous donner un détail, c'est que le chiffre global de l'endettement est équivalent au PIB mondial. Hein, c'est donc 100% PIB mondial.
Donc on est sur un point de bascule.
L'endettement est équivalent à l'épargne disponible.
Donc l'enjeu, c'est la réforme du FMI.
Frédéric, 30 secondes, c'est à vous.
Alors, un coup de cœur pour les salariés et travailleurs de General Electric qui étaient en débrayage jeudi dernier, parce que le jour du printemps, parce qu'ils sont porteurs de l'intérêt commun, comme l'était la classe ouvrière pendant la Résistance, avec Manouchian et d'autres, parce qu'ils demandent de la transparence sur le problème de la cession des turbines décisives du nucléaire, les turbines Arabel, parce que il semblerait que la vente serait annulée. Ils dénoncent l'extraterritorialité des États-Unis qui veulent appliquer sur cette turbine, qui ont rajouté un brevet qui sert à rien sur cette turbine. Ils dénoncent le prix qui serait maintenu et donc le manque de transparence. Il faut savoir, c'est pour l'intérêt national.
Voilà. C'était pour votre beurre du soir, Frédéric. Merci à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de BFM Business. Isabelle Bordry, Jean-Marc Sylvestre et Frédéric Bocara. Très vite pour nouvelles aventures, bien évidemment, avec plaisir. 19h55, c'est déjà fini.
Eh oui, on est triste de se quitter, évidemment. Ceci dit, on va forcément continuer à débattre en quittant le plateau. Et la bonne nouvelle, c'est que vous qui nous regardez, qui nous écoutez, vous pouvez retrouver le débat. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et puis, bien sûr, on se retrouve demain soir.
Bien sûr qu'on se retrouve demain soir, 18h-20h. Dans un instant, Tech & Co avec François Sorel. Tech & Co qui recevra, sera à 21h, le patron Europe, Moyen-Orient et Afrique de Nvidia, la nouvelle star qui sera sur ce plateau tout à l'heure à 21h. Voilà le programme. Et nous, effectivement, on se retrouve demain, 18h. Bonne soirée.
À demain.
Good evening, business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.